Extra. La chronique américaine.
We will make America great again.
Avec Valérie Beaudoin.
Bonjour Valérie.
Bonjour Marie-Hélène.
Bon, alors, première des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis ce week-end. D'abord, les expulsions de millions de sans-papiers. Il y en avait plusieurs qui devaient se faire aujourd'hui. Est-ce que ça se passe ou ça m'apparaît plus calme que ce qu'on avait imaginé là quand même?
Oui, moi, je m'étais imaginé me réveiller le dimanche matin et puis voir les images partout des agents de l'immigration qui vont dans des résidences. Bon, pour on avait cette image très forte-là des gens qui arrivent un peu avec le SWAT pour aller chercher des migrants, mais pour l'instant, c'est assez calme. On a promis que ces opérations-là débuteraient aujourd'hui, donc ça pourrait peut-être débuter aujourd'hui, à moins que Trump décide de reporter, parce que je vous le rappelle que c'est une promesse électorale. Il a toujours répété qu'il veut déporter les gens, les sans-papiers aux États-Unis le plus possible. Alors, il y en a des millions, alors imaginez l'opération. Mais il avait promis de le faire pour 2000 personnes en juin, pour ensuite dire, ben écoutez, je vais donner 2 semaines aux démocrates et aux républicains pour s'entendre pour des meilleures lois sur l'immigration. Et si ça se passe pas, ben ça va arriver. Et c'est cette journée-là, on est aujourd'hui à la journée où il doit avoir ses déportations de sans-papiers aux États-Unis. Mais ça doit s'étaler sur 3 jours. Alors, est-ce que ça va commencer un peu plus tard? Est-ce que ça sera reporté? Ça reste à voir. Simplement pour vous dire que là, on va cibler, entre autres, normalement, on cible pas des familles. Hein? On cible des gens qui sont nouvellement arrivés ici. Et là, la peur des gens, c'est qu'on sépare des familles qui viennent d'arriver au pays.
Ouais. Mais il devait y avoir des premières rafles au cours de la nuit, c'est ce que Trump avait dit.
Oui.
Et apparemment, là, cette nuit, il semble pas s'être passé beaucoup d'interventions là, quand même.
Non,
on va attendre.
Qu'on dit, c'est voilà, est-ce que les organisations qui aident les personnes en situation illégale aux États-Unis ou sans papier ou aider à avoir une situation, je vous dirais, régulière aux États-Unis, ce qu'ils disent, c'est que les gens sont extrêmement anxieux, que des gens qui se sont cachés dans des églises, entre autres, parce qu'en fait, comment ça se passe, c'est que les agents d'immigration peuvent aller cogner à votre porte, ils ne vont pas nécessairement arriver d'une opération policière, trouver un prétexte pour vous faire sortir. Une fois que les gens sont à l'extérieur, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent être appréhendés. Alors, les gens sont un peu, je vous dirais, en état de nervosité. Ils ne veulent pas sortir de la maison. Donc, ça c'est un peu chaotique. Et écoutez, là, je trouve ça un peu, comment dire, insensible à la chose, mais il y a énormément de reportages aux États-Unis qui se font en disant, bien, écoutez, tant qu'il y a cette anxiété-là, bon, on n'aura pas nécessairement de bons services dans les restaurants ou tout ça. Alors, c'est pour vous dire, c'en est ridicule, mais c'est pour vous dire à quel point, oui, Trump veut déporter plusieurs millions d'immigrants, mais c'est des gens qui sont déjà ancrés malgré lui dans le système aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui travaillent. Est-ce que c'est de façon légale? Nécessairement, non.
Et il y a beaucoup d'enfants qui sont nés aux États-Unis.
Exactement. Ouais. Et c'est ça vraiment qui va briser le cœur si ça arrive, parce que qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Est-ce qu'on le laisse en arrière en se disant, ben il va peut-être avoir une meilleure vie ici, puis on se sépare des familles? C'est ce qu'il y en a qui ont fait à la frontière, qui ont traversé de façon illégale. Et une fois qu'ils sont fait appréhender, ben laisse l'enfant en charge des autorités américaines. Donc, imaginez de vouloir tellement le bien-être de son enfant qu'il était prêt à l'abandonner dans un autre pays en se disant qu'il va peut-être avoir une meilleure chance.
Bon, l'autre affaire qui a fait beaucoup parler, donc pour ce qui est des sans-papiers aux États-Unis, on va suivre la situation, bien sûr, au cours des prochaines heures, Valérie. L'autre affaire qui a beaucoup fait jaser, c'est le ministre du Travail américain, Alexander Acosta, qui a démissionné vendredi. Est-ce que la pression a été trop forte pour le secrétaire au travail américain, tu crois?
Oui, c'est ce qu'on croit, parce que lui était visé dans toute l'histoire entourant Jeffrey Epstein. Et pour rappeler un peu les faits, Jeffrey Epstein, c'est ce milliardaire américain qui a été arrêté le week-end dernier à son arrivée là à New York après un voyage en France, qui est accusé d'accusations très, très graves en lien avec du trafic sexuel de jeunes filles mineures. On parle d'aussi jeunes que 14 ans. Bon, on en avait parlé la semaine dernière, mais là, lui, c'était le procureur général de la Floride en 2008, quand Jeffrey Epstein avait aussi été appréhendé par les autorités et pour le même genre d'accusation, avait eu seulement 13 mois de prison. Et c'est pas tout, il allait en prison 6 jours sur 7, il pouvait sortir plusieurs heures par jour pour aller travailler, il revenait seulement dormir à la prison. Alors, le tout était pour éviter un procès fédéral. les gens se disaient, ben le monsieur Acosta est complice de ce gars-là, de cet individu-là qui a échappé à la justice parce que si c'était monsieur, madame, tout le monde qui aurait le même genre d'accusation, ben il serait emprisonné. Il aurait peut-être eu même des 40 ans de prison. Alors, on comprenait pas pourquoi il avait fait ça et on pointait vraiment du doigt Alexander Acosta qui était, tu l'as dit, Marie-Hélène, le secrétaire au travail de Trump. Et ce que Trump a dit, c'est que, bon, il sentait que on mettait la loupe sur l'administration pour pas les bonnes raisons et que lui, parce qu'il est bien sûr fidèle à Trump et son administration, il avait décidé de se retirer. Mais est-ce qu'il a démissionné ou s'est fait démissionner?
Ouais.
Ça, c'est aussi c'est la grande question, mais quand même, là, lui, il va peut-être avoir des comptes à rendre dans cette histoire-là.
Bon, il y a deux images qui ressortent de ça. D'abord, c'est un départ qui vient renforcer l'image d'une équipe, d'un gouvernement Trump qui est instable. Et l'autre, il y a une image d'un système de justice à deux vitesses, là.
Oui, tout à fait, parce que Jeffrey Epstein, et là, faut pas seulement faire des liens avec le président Trump, parce que là, on en parle beaucoup du fait que c'était des amis, c'est des gens qui se connaissaient, qui fréquentaient le même cercle, bon, le cercle des gens très, très riches, qui allaient dans les mêmes événements, mais c'est quelqu'un qui était aussi très près de Bill Clinton, et c'est quelqu'un qui avait des amis à Wall Street, qui avait des amis dans toutes les sphères, je vous dirais, autant financières que politiques aux États-Unis, et ça donne un peu l'impression que, on a de l'argent. Si on a des amis qui sont bien placés dans le système de justice ou qui sont bien placés dans une administration quelconque, on est capable d'avoir une peine peut-être plus, une peine qui est pas très, très sévère. Ce à quoi les gens se défendent en disant, écoutez, on allait devoir payer des millions de dollars pour un procès fédéral, on ne sait pas s'il aurait été accusé, et de cette façon-là, en lui donnant le 13 mois, on a réussi à le mettre dans la liste des délinquants sexuels aux États-Unis. Mais ce qui choque en ce moment, il y avait un excellent reportage dans le New York Times là-dessus, c'est que le fait que même si Jeffrey Epstein a fait de la prison, a été déclaré délinquant sexuel, il continuait de fréquenter les mêmes sphères. Après, il y avait les mêmes amis. Il allait dans des soirées avec Jeff Bezos, il allait dans des soirées avec plusieurs personnes très, très importantes aux États-Unis. Alors, je vous dirais que même l'espèce de système à deux mesures se fait aussi dans la société en se disant, c'est correct, il est pardonné, il peut revenir dans la société très, très élevée des États-Unis.
Bon, on va reparler aussi dans les prochains jours de l'enquête russe, Valérie. Robert oui. Mueller devait se présenter cette semaine devant les élus américains. Est-ce que j'ai lu que c'était reporté ou décalé?
Exactement. Ça devait être le 17 juillet. Ça va être le 24 finalement. Bon, il y a des gens qui avaient peur que ce soit parce qu'on l'annule ou autre, mais en fait, c'est pour donner plus de temps aux élus du Congrès qui vont être présents pour le questionner. Parce qu'on avait seulement 2 heures avec tous les temps de parole limités et le nombre de gens qui veulent questionner Robert Mueller. On s'est dit, ça vaudra pas la peine de faire cette représentation-là devant le Congrès, cette audience publique-là, si on ne peut pas avoir le fond de l'affaire. Alors là, on va avoir 3 heures d'allouer le 24 juillet pour questionner Robert Mueller. Mais pour les gens qui s'attendent à avoir des déclarations fracassantes ou avoir du nouveau, il l'a dit dans son unique conférence de presse, « Si j'ai à parler, vous apprendrez rien de nouveau. Tout ce que j'avais à dire était dans le rapport. » Alors, on va le cuisiner. Marie-Hélène, on peut en être certaine. On va le cuisiner du mieux qu'on peut, mais je pense pas qu'on va avoir de grandes révélations. Donc, le 24 juillet, pour les gens qui s'attendaient à avoir quelque chose là, d'extraordinaire qui ressort de cette déclaration-là, mais sait-on jamais.
Bon, Valérie, parce que ce sera le 50e anniversaire, on parle beaucoup ces jours-ci des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, ce qui amène des gens à se demander si les Américains ont l'intention d'y retourner éventuellement.
Oui, puis il y a un sondage qui a été fait justement à l'occasion du 50e anniversaire par, entre autres, c'est C-SPAN qui a demandé ça aux États-Unis. On demandait aux Américains, est-ce que vous trouvez que c'est une priorité de la NASA? Ça devrait être une priorité d'avoir encore des Américains qui marchent sur la Lune, parce que c'est ce que Trump a demandé, qu'on puisse peut-être retourner sur la Lune en 2024. Il y a 8% seulement des Américains qui disent que ça devrait être une priorité. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on aura posé cette question aux gens dans le sondage disant, si c'est pour faire compétition, la Russie ou la Chine, est-ce que vous aimeriez qu'on mette une priorité sur la mission lunaire? Et là, ça monte à 49%.
Ah ouais.
Alors, quand on voit qu'il y a une espèce de compétition au niveau des missions spatiales, on voit vraiment une différence. Et il y a 18% seulement des Américains qui croient qu'on devrait avoir une mission. Il y a des gens qui marchent sur Mars ou qui se rendent sur Mars finalement. Et je vous rappelle qu'on veut utiliser la Lune pour ensuite se rendre sur la planète Mars pour les explorations spatiales. Mais quand même, on voit que c'est un peu moins une priorité pour les Américains. Plus une priorité au niveau, je dirais, de la sécurité spatiale et aussi au niveau du développement des satellites pour savoir comment changements les changements climatiques peuvent impacter la société américaine.
Mais quand la conquête lunaire fait vraiment encore beaucoup parler dans la presse hier, en première page, on titrait toujours le même rêve 50 ans plus tard. C'est une fascination qui est là pour rester et qui demeure.
Oui, mais c'est accepté depuis vraiment très, très peu d'années aux États-Unis. Dans le sondage, j'en parle aussi, parce qu'avant, les gens le trouvaient que c'était tellement de l'argent qui était jeté par les fenêtres. Les gens, là, Christian Page en a déjà parlé sur les ondes, les gens qui croient encore qu'il n'y a jamais eu de mission lunaire, que c'était vraiment orchestré par le gouvernement américain, il y en a encore. Et c'est vraiment au cours des dernières années, en voyant le développement que les autres pays vont faire dans l'espace, que les Américains se mettent un peu plus à accepter qu'on dépense des millions dans la NASA. Mais quand même, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont d'autres priorités, que c'est pas le développement, je vous dirais, de cet espace, la fameuse Space Force que les États-Unis veulent avoir, qui devrait être les priorités aux États-Unis au niveau technologique, du moins.
Valérie, en terminant, on va parler de ce coup formidable fait par le New York Magazine, qui a publié un numéro. Parle-nous de cette couverture. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'aille l'acheter aujourd'hui parce que c'est trop extraordinaire ce qu'ils ont fait.
Oui, le numéro du New York Magazine qui va jusqu'au 21 juillet, si je ne me trompe pas, là. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est vraiment remarquable. Parce que si on voit, là, je vais essayer de vous le décrire de la façon la plus claire possible, on voit une image et il y a un gros titre avec une espèce de cornet ou de suspens classique qui est là. Exactement, qui ça dit, écoutez, dans ce numéro-là, vous allez avoir tout sauf Trump. On ne parle pas de Trump, sauf dans le titre, bien sûr. Alors, c'est vraiment quand même un coup de génie, je trouve, de ce magazine-là, de l'éditeur, de dire, ben, écoutez, nous, on trouve qu'on en parle tellement souvent dans toutes les sphères de la politique américaine.
On n'est plus capable.
C'est vrai. Imaginez, nous ici, on en parle tout le temps, comment les Américains, eux, ça fait partie de leur quotidien à tous les jours. Et les critiques, c'est le fait qu'il y a tellement de sphères aux États-Unis qui sont mises de côté, des bonnes politiques qui sont mises de côté parce qu'on est toujours dans cette guerre entre les médias et le président américain. Alors, eux ont choisi vraiment de pousser plusieurs histoires, entre autres sur le mouvement Black Lives Matter, sur plusieurs autres questions sociales. Et je l'ai pas encore entre les mains le magazine, mais en théorie, mis à part le titre, il y a aucun endroit dans ce magazine-là, le New York Magazine, qui est très, très, très connu aux États-Unis, où on va mettre la notion du président Trump, où on va le nommer dans ce magazine-là.
En fait, son nom n'est nommé qu'en couverture. Nulle part
Exactement.
Ailleurs dans le magazine, son nom n'est mentionné. Et puis, on a vendu l'édition en disant que c'est probablement le magazine que Trump va détester le plus dans sa vie.
Oui.
Parce que lui, il aime bien qu'on parle de lui dans les médias et tout ça. Tu sais, c'est parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi à tout prix.
Oui, parce qu'on le sait, il y a toujours cette bataille-là qui revient chaque année pour la couverture du Time Magazine, de la personnalité de l'année. Trump, quand il l'est pas, ils disent, bon, ben, c'est de la faute du Time Magazine qui est biaisé, mais quand il l'est, il est vraiment très, très content d'être en couverture de ce magazine-là qui est très, très prestigieux aussi. Mais quand même, je trouve que c'est un bon coup de maître, un bon coup de publicité pour le New York Magazine. Et peut-être, Marie-Hélène, un jour, une chronique sans Trump de ma part, on verra. On verra si il lance le défi.
Oui, c'est un autre défi, mais qui va être difficile à faire parce que ta priorité est de parler de politique américaine. C'est
voilà.
Le président du pays quand même. Merci beaucoup, Valérie Beaudoin.
Merci.
À la semaine prochaine. Le numéro dont Valérie nous parlait du New York Magazine est en kiosque jusqu'au 21 juillet. Il est 9h précisément. On retourne les informations. On fait le point sur la circulation et la météo pour les jours qui viennent.